La première,
podcast. Un jour dans l'histoire, Laurent de Hausset.
Nous sommes au cœur du dernier millénaire de l'Égypte ancienne, une période qui va voir se développer une institution puissante et exclusivement féminine, celle des divines adoratrices du dieu Amon, épouses du dieu. Elles vont jouer un réel rôle politique, économique et bien sûr religieux. Elles entreprendront des très grands travaux de grande envergure et laisseront une statuaire d'une qualité étonnante. Ces femmes, elles aussi, ont contribué à façonner l'Égypte.
Tous les jours de 13h30 à 14h30, un jour dans l'histoire.
Mahate. Iaiti Makumat.
Et voilà, et tous les extraits que vous allez entendre aujourd'hui sont issus d'un CD Ancient Egypt. C'est une reconstitution de musique et chants rituels de l'ancienne Égypte d'après l'iconographie égyptienne. Ce qu'on vient d'entendre là, c'est les vœux de paix et de bienvenue en Égypte. Alors pour évoquer cette fonction de divine adoratrice, avec nous il y a Marine Liber. Bonjour Marine Liber.
Bonjour.
Vous êtes historienne de l'art, archéologue, et vous allez donner une conférence, l'institution des divines adoratrices du dieu Amon, ce dimanche, donc le 18 à 15h, à l'espace Bernier, centre culturel de Waterloo, à Waterloo, c'est la rue François Libert au 26, pour être tout à fait juste. Alors, la fonction d'épouse divine remonte au Moyen Empire, c'est-à-dire la période qui va de moins 2033 à moins 1786. C'est un titre qui n'est pas spécifique au dieu Amon, mais c'est pour ce dieu que l'on possède le plus d'informations, grâce notamment au temple qui lui a été consacré à Thèbes. Mais au début, parmi quelles catégorie de femmes choisit-on ces prêtresses, ces divines adoratrices?
Alors, la catégorie de femmes, justement, n'est pas connue, malheureusement, pour le Moyen Empire, parce que, tout simplement, on n'a pas suffisamment de documentation. On a des noms, mais à partir des noms, il faut tout simplement retrouver une généalogie pour avoir vraiment une distinction au niveau des familles. Donc, on suppose que, comme c'était le cas pour le reste des prêtresses des dieux, elles étaient choisies dans les grandes familles de dignitaires de l'époque. Mais on n'a pas beaucoup plus d'informations. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il existait tout un tas de prêtresses à l'époque qui officiaient pour divers dieux. Et parmi ces prêtresses, on ne sait pas pourquoi, certaines étaient choisies pour devenir épouse du dieu ou divine adoratrice.
Et on va la qualifier d'épouse, mais aussi de main du dieu. On a pu voir sur des statues qu'on a retrouvées, notamment de la 12e dynastie, c'est cette inscription, main de dieu. Alors c'est un titre qui va évoluer au fil du temps, mais il y a des constantes quand même. Elle est épouse de dieu, divine adoratrice, quoi encore?
Alors, donc, l'épithète donc, qui va revenir au départ, c'est justement l'épithète d'épouse du dieu. Alors, cette épithète d'épouse du dieu, en dehors du terme d'adoratrice qui signifie uniquement que ce sont des prêtresses, qui adorent le dieu, elles définissent que ces femmes sont épouses virtuelles, entre guillemets, du dieu lui-même. Et pour déterminer, entre guillemets, le rôle que ces épouses du dieu vont avoir, on donne l'information de main du dieu qui fait référence, en fait, aux dogmes héliopolitains, donc ils sont tous ces dogmes, en fait, il y en a plusieurs par ville, on veut, qui déterminent la façon dont le monde a été créé en Égypte. Alors, il y a différentes versions, et à Héliopolis, la version est que le dieu Atum, à l'origine de tout, aurait recouru à la masturbation pour pouvoir créer, en fait, les divers dieux qui constituent le monde. Et donc, la divine adoratrice, en tant que main du dieu, elle va avoir pour rôle d'être cette main, c'est-à-dire d'éveiller le désir de son époux pour maintenir tout simplement l'harmonie de la création.
C'est-à-dire qu'elle doit le charmer aussi par ses attraits physiques notamment.
Donc on va voir dans les représentations des divines adoratrices, généralement les caractères féminins, sexuels mis en évidence. Elles sont généralement parées de magnifiques robes qui laissent entrevoir toutes leurs formes. Elles sont parées aussi de toute une série de bijoux, de grosses perruques. Elles sont douées généralement en tant que musiciennes au niveau niveau du chant, peut-être aussi des acrobaties et de la danse. Et donc, c'est tous ces éléments qui vont participer justement à la séduction du dieu, qui va permettre justement d'établir, enfin, de maintenir cette harmonie de création, c'est-à-dire le fait que le dieu va pouvoir recréer le monde de manière continue.
Et c'est surtout à partir du Nouvel Empire, donc moins 1550, moins 1069, que les contours de cette charge se précisent, avec un changement de taille quand même, c'est qu'on va aller chercher ces femmes dans une catégorie bien précise, là, justement.
Tout à fait. Donc on avait au départ des prêtresses un peu inconnues, puis on a en fait un trou dans la documentation, hein. C'est vraiment quelque chose de très fragmentaire. À l'heure actuelle, il y a beaucoup de zones qui sont encore obscures. Tout ce qu'on sait en tout cas, c'est qu'à partir du Nouvel Empire, la charge va appartenir à des membres éminents de la famille royale, en particulier donc les reines. Et alors, elle va prendre une dimension totalement différente parce qu'on voit peut-être déjà à l'époque un désir au niveau donc de la royauté de garder une main sur ce clergé d'Amont-Thébain qui va ne pas cesser de grossir au fil des siècles et qui va d'ailleurs créer plusieurs ruptures dans l'histoire de l'Égypte. Alors, à partir du moment où les reines ont justement ce statut d'épouse du dieu, on va voir aussi une modification tout simplement dans l'iconographie. Elles vont arborer les attributs royaux, hein, la dépouille de vautour par exemple, qui représente la protection justement de Nekhbet sur la royauté. Elles vont aussi porter l'uréus qui est un symbole royal. Et cette iconographie va en fait continuer à se développer jusqu'à la 26e dynastie, c'est-à-dire au 7e, 6e siècle avant Jésus-Christ.
Nous sommes avec Marine Libert et on tente de comprendre ce que c'est que cette fonction de divine adoratrice. Vous l'avez dit, les informations finalement sont assez parcellaires. On va essayer de remplir les trous avec vous, Marine. Voilà ici un hymne à Hathor. Hathor, quel dieu, Marine Libert ?
Alors, Hathor, c'est une représentation en fait du féminin et c'est d'ailleurs très intéressant parce que les divines adoratrices donc vont être associées en tant qu'épouse du dieu, j'en ai pas parlé, en fait à la parèdre d'Amon. Donc son épouse, hein, qui est la déesse Mout, qui est une des représentations du principe féminin. En fait, les femmes en Égypte ont toujours eu ce rôle de création et de procréation qui est vital, étant donné que la vie n'est qu'un chemin, hein, pour les Égyptiens. Le but est de pouvoir revivre à nouveau. Donc le principe de naissance et de renaissance est vraiment très important. Et Hathor, dans tous les mythes, est justement une des déesses qui incite à l'amour. Et donc, parmi les attributs que vont porter les divines adoratrices à partir de la 18e dynastie et vraiment beaucoup à la 25e dynastie, eh bien, on va avoir justement la coiffe hathorique qui est composée des cornes de vache, parce qu'il faut savoir que les dieux égyptiens peuvent se changer, justement, changer d'apparence, et une des apparences d'Hathor est la vache, et le disque solaire, parce qu'elle est considérée comme étant la fille de Ré, et donc dans toutes les histoires qui lui arrivent dans sa vie de déesse, eh bien, elle aura beaucoup d'interactions justement avec ce père qui est aussi un père créateur du monde, hein, dans un des autres mythes égyptien. Donc voilà, c'est très lié justement.
Alors il y a les mythes, il y a le cultuel bien sûr, donc il y a des cérémonies de purification, etc. On y reviendra un petit peu tout à l'heure. Mais il y a aussi le côté pratique, donc elles sont aussi épouses royales et ça veut dire qu'il y a tous les privilèges qui vont avec.
Alors, effectivement, il y a toute une série de privilèges à la 18e dynastie qui apparaissent et qui sont liés déjà au statut de reine. Mais ça, c'est le cas de toutes les reines, j'ai envie de dire, avant déjà l'Ancien Empire ou Moyen Empire. Ce qui va changer, justement, c'est avec l'acquisition du statut d'épouse du dieu qui va être donné en premier donc à Amès Néfertari, qui est l'épouse et, suppose-t-on, la sœur d'Amosis, donc qui est le libérateur, entre guillemets, le fondateur de la 18e dynastie. On va avoir donc un statut qui était le statut de prophète, deuxième prophète d'Amon, donc qui était lié justement au culte rendu à Amon, qui était masculin, qui va être qui va passer, entre guillemets, chez l'épouse. Donc ça veut dire que cette épouse, en plus d'acquérir un statut qui est très très important, va avoir avec toute une série de rentes en terre, en biens divers, des vêtements, des bijoux, etc. Et aussi un personnel assez important qui vont être à son service. Et cet ensemble d'éléments, en fait, ne vont faire que grossir au cours du temps, jusqu'à la 25e dynastie, où ces femmes, à l'époque, vont vraiment avoir un statut quasi royal, alors qu'elles ne sont pas des reines.
On y reviendra tout à l'heure. Comment se transmet cette fonction, Marine Libert ?
Alors, la transmission de fonction au Moyen Empire, donc je vous ai dit, n'est pas connue. Au Nouvel Empire, on suppose, mais on n'a pas de documentation à ce niveau-là, que c'est toujours sur désignation en fait, du pharaon, comme ça a été le cas donc, pour Amès-Néfertari. On a une stèle de donation du roi à la reine qui indique que c'est lui qui désigne celle-ci en tant qu'épouse du dieu. Et donc, on suppose que pour le reste des épouses, c'est le cas aussi. Par contre, par la suite, on va avoir un changement donc, dans cette succession, on peut dire, de divine adoratrice. Tout simplement, on va avoir l'introduction d'un système d'adoption. Alors, ce système d'adoption, il est lié à une question très spécifique. C'est qu'au moment où il apparaît, l'Égypte, qui pendant quasi 2000 ans a été gouvernée uniquement par des Égyptiens, elle a connu quand même des périodes assez troubles, mais à chaque fois, tout s'est remis en marche. À partir de la fin de la 20e dynastie, elle ne retrouve plus jamais en fait cet équilibre et on va avoir une succession de dynasties étrangères, libyennes d'abord, couchites ensuite, puis perses, on aura aussi les macédoniens, les romains, et donc on a toute une succession de dynasties dans lesquelles chaque nouveau dynaste va vouloir légitimer en fait son pouvoir. Et afin de légitimer celui-ci, il va faire en sorte que la divine adoratrice précédente adopte, entre guillemets, sa nouvelle fille, parce que en réalité, ces divines adoratrices, à partir de la 20e dynastie, vont faire vœu de chasteté, ce qui réglera aussi certains problèmes, parce que le fait qu'elle ne puisse pas avoir d'enfants propres évite en fait d'avoir encore une lignée supplémentaire qui pourrait réclamer entre guillemets le trône en Égypte.
Alors la célèbre Hatshepsut, fille de Thoutmôsis Ier et sa fille Néféroûré, associent leurs titres royaux à celui du dieu Amon. Sur les représentations à disposition des chercheurs, on peut voir à Karnak une épouse divine qui effectue le rite de brûler les ennemis. Et ça, c'est très très important. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, on voit que en dehors de toutes les scènes des divines adoratrices donc, qui vont être destinées justement aux dieux, donc il y a tout un tas de prérogatives qui sont liées au statut divine adoratrice. C'est par exemple faire les offrandes, donc on a les libations, le brûlage d'encens, les offrandes alimentaires, on a aussi tous les éléments qui ont pour but d'apaiser les dieux. Alors là, on pourrait dire, c'est normal, ce sont des épouses du dieu, c'est leur rôle. Mais en dehors de ça, on va voir qu'elles ont déjà un rôle politique, puisqu'elles prennent part, par exemple, dans cette scène qui dépeint, on suppose, Néféroûré, à toute une série de rituels qui habituellement étaient effectués uniquement par le pharaon, et dans lesquels elle prend une part active à la protection en fait, du royaume lui-même. Donc elle n'est plus simplement une prêtresse qui s'adresse à un dieu, mais par son rôle, elle va faire des actes qui vont protéger. Et en brûlant les ennemis, il n'y a pas forcément besoin d'explication, brûler les ennemis, c'est bien montrer qu'on essaye de protéger donc l'Égypte contre les ennemis extérieurs. Voilà.
Divines adoratrices, épouses de Dieu, nous sommes avec Marine Libert.
Thank you.
Voilà ici l'hymne du réveil, toujours extrait de ce CD qui est consacré aux musiques et aux chants rituels de l'ancienne Égypte. Nous sommes avec Marine Libert à propos de cette institution des divines adoratrices dans cette Égypte ancienne. Alors vous l'avez dit Marine, c'est évidemment beaucoup de soubresauts hein, dans l'évolution de cette fonction qui commence à disparaître vers la fin de la 18e dynastie. Pourquoi ?
Alors, exactement, en fait c'est... On place la disparition, on va dire, au règne d'Amenhotep III. Alors, tout simplement parce qu'il va y avoir une grosse crise religieuse. Alors, je ne l'ai pas expliqué, mais en fait, Amon, hein, c'est vraiment... il va devenir, dès la 12e dynastie, justement, un véritable dieu d'État. Hein, et tous les actes de la vie quotidienne qui, habituellement, étaient protégés par toute une série de dieux différents, vont... en fait, s'adresser à un dieu unique. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Ben, c'est certainement parce que le clergé fait en sorte que toute une série d'aptitudes qui habituellement appartenaient à d'autres dieux ne soient plus
il y a une sorte de centralisation,
d'Amon. Alors, déjà, avec ça, on va avoir donc un renforcement du culte. Et puis, étant donné qu'Amon va devenir le dieu un peu tutélaire, celui qui représente la royauté, eh bien, toutes les conquêtes qui vont se dérouler et toutes les richesses qui vont être amassées vont être distribué au temple justement et au clergé d'Amon qui va grossir de plus en plus. Et à partir de là, on va véritablement avoir un culte énorme consacré à Amon.
Avec un déplacement de la capitale aussi.
Avec un déplacement donc de la capitale qui va arriver en fait après. C'est face à ce grossissement donc du culte d'Amon que, on ne sait pas exactement comment, un pharaon, le fils donc justement d'Amenhotep III, va considérer donc que cet état dans l'état met en danger peut-être le pouvoir royal. Et donc il va décider de substituer à cette religion donc qui était la plus importante, donc la religion amonienne, l'adoration du globe solaire, donc Aton. Et cet homme n'est pas un inconnu, en fait c'est Akhenaton, tout le monde le connaît, qui va, pour justement prendre de la distance par rapport à Thèbes et au culte d'Amon, faire fermer les temples et déplacer effectivement sa capitale qu'il va fonder dans le désert, Akhetaton, l'horizon d'Aton, à Tel El Daba. Et à ce moment-là, on voit disparaître la fonction, ce qui est assez logique, étant donné que Amon est un peu, persona non grata.
Et puis c'est une fonction qui réapparaît encore, avec un tournant important qui s'amorce vers la fin du Nouvel Empire, avec la princesse Isis, fille de Ramsès VI, donc là on est dans les années 1100, avant Jésus-Christ bien sûr, et puis la grande épouse, donc elle est la fille aussi de la grande épouse royale Nubkézé. Il y a notamment un petit monument, un pyramidion, que l'on dit, au British Museum. Qu'est-ce qu'il nous raconte d'Isis et en quoi est-elle si importante ?
Alors, premièrement, il faut savoir que la restauration en fait de la fonction d'épouse du dieu, elle vient avec la restauration tout simplement du culte d'Amon. Donc Akhetaton, ça a été vu véritablement, on le sait, c'est ce qu'on dit généralement, comme un hérétique. Et donc, ce qui est un mot un peu fort, il faut le dire quand même, mais en tout cas, on a essayé de restaurer le culte d'Amon. Ça a été le cas pour son fils, Toutankhaton au départ, qui va changer son nom en Toutankhamon. Et puis pour tous les descendants, donc on aura, tous les successeurs, parce qu'ils ne sont pas de la même famille, on aura Horembet, et puis la 19e, la 20e dynastie, le faste du culte d'Amon va revenir. Et Isis, donc, est la première, on pourrait dire, à retrouver véritablement le statut d'épouse du dieu. Et la grande innovation donc, qui va se dérouler à ce moment-là, c'est le fait qu'elle va être la première à porter donc, le double nom, épouse du dieu et divine adoratrice, qui étaient des termes qui étaient un petit peu employés. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, on a encore du mal à définir très clairement cet élément. Et elle ne va plus être désignée donc, à l'époque, et c'est ce qu'on voit justement sur le pyramidion, parmi l'ensemble des titres qui présentent donc le double nom de la divine adoratrice et de l'épouse du dieu. Il est indiqué donc qu'elle est désignée par l'oracle d'Amon lui-même. Donc précédemment, on avait une désignation qui était faite par le pharaon lui-même. Et ici, c'est le dieu Amon, a priori. Hein, bien ouais. entendu, il faut penser qu'il y avait un intermédiaire et que c'était certainement très utile, qui désigne la divine adoratrice. Alors, sur, sur ce pyramidon, eh bien, elle arbore justement l'ensemble de ces titres qui sont une nouveauté. Et elle est désignée donc en tant que... choisi véritablement par Amon.
C'est une sorte de renforcement encore du privilège.
Voilà,
évidemment.
C'est ça. En fait, c'est ce qu'on va voir jusqu'à la 25e dynastie. Hein. Comme on voit, c'est un peu des informations plic-ploc, mais ça montre bien que au fur et à mesure, dans le temps, elles acquièrent des privilèges royaux, on peut dire, qui sont de plus en plus importants. Par exemple, dans la période qui va suivre, hein, on a une divine adoratrice à la 21e dynastie qui est très importante, qui est Matkaré. Et elle va conserver donc ce double nom, hein, cette double entité qui était déjà présente chez Isis. Elle va les entourer aussi donc d'un cartouche qui est un privilège donc véritablement royal qu'on retrouve déjà partiellement donc chez Isis. Et elle va même augmenter sa titulature en se faisant appelé Mout Emhat, donc c'est Mout à son commencement, si on veut, qui renforce encore le lien, entre guillemets, qu'elle a avec l'épouse réelle du dieu qui est Mout. Voilà.
Et on va un petit peu d'ailleurs se focaliser sur Matkaré parce qu'il y a eu des doutes quant à sa virginité, justement. On y revient avec vous, Marine Libert. Extrait encore de cet hymne à Hathor. Alors on le disait, Marine Libert, la royauté égyptienne se délite, l'Égypte se scinde en deux pouvoirs, mais contre toute attente, l'institution et la fonction de divine adoratrice va se maintenir. Il y a l'exemple de Matkaré. Alors, vous l'avez dit, il y a aussi cette nouvelle manière de nommer hein, les divines adoratrices et épouses de Dieu. Quel témoignage pour Matkaré, et justement témoignage qui va être sujet à polémique?
Alors, pour Matkaré, on a la chance, en fait, d'avoir retrouvé, si pas sa sépulture, en tout cas, l'endroit où on a entreposé sa momie et du matériel funéraire, notamment, donc, un extrait du Livre des Morts qui accompagnait, en fait, les défunts, dans lequel on retrouve, donc, comme je disais, la double appellation épouse du dieu et divine adoratrice. Et on va surtout retrouver, donc, sa momie, ce dont vous parliez tout à l'heure. En ouvrant justement donc le cercueil dans lequel on a trouvé la momie, en fait, elle n'était pas seule, il y avait une seconde momie à côté. Alors à l'époque, les chercheurs étaient totalement perdus, étant donné qu'on venait de déterminer qu'a priori, les divines adoratrices étaient vierges. Donc que faisait une petite momie? Alors à l'époque, on n'avait pas forcément les moyens pour analyser justement par radiographie ce qu'il y avait à l'intérieur de cette momie. Et puis heureusement, à un moment, on a réussi, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était son singe de compagnie. Ouais. L'honneur était sauf. Voilà. Et on s'est rendu compte, donc, effectivement, était maintenue donc, la virginité présumée d'Isis chez les autres, entre guillemets, en tout cas chez Matkaré, et on le verra aussi par la suite. Ça va être maintenu donc, durant la 22e, la 24e dynastie, jusqu'à la 26e dynastie, étant donné qu'il n'y a pas de mention, entre guillemets, d'un époux terrestre, si on veut, alors que à la 18e dynastie, pour les épouses divines, enfin, qui étaient aussi grandes épouses royales, on sait qu'a priori, étant donné les nombreuses naissances, il y avait consommation du mariage. Voilà. Et donc, parmi les autres éléments qu'on a pour Matkaré, eh bien, on va commencer à avoir de véritables représentations sur les temples à Karnak, dans lesquels elle exécute, entre guillemets, les
rites. Et
voilà,
les
exactement. Donc, par exemple, l'agitation des sistres qui a pour but, a priori, par le son qui imite celui du vent dans les roseaux, d'apaiser les dieux.
Alors l'Égypte va subir, vous l'avez déjà un petit peu évoqué, Marine Libert, différentes influences, les Libyens, les Nubiens, les Assyriens. Toutes ces influences étrangères vont maintenir cette institution, la divine adoratrice.
Alors oui, Exactement. Donc, contrairement justement à ce qu'on aurait pu penser, hein, c'est une institution qui est pleinement égyptienne, liée à un culte qui est pleinement égyptien aussi, et donc on aurait pu le voir disparaître. Mais vu l'ampleur donc du phénomène, si on pourrait dire, hein, vu l'institution en elle-même, les richesses, les terres, les biens, l'influence qu'elle a, étant donné que c'est une région entière, hein, c'est à Thèbes que se situe donc le cœur du culte d'Amon, eh bien, les souverains étrangers vont se rendre compte que pour garder une mainmise sur cette région qui s'est déjà, on va dire, pas soulevée, mais qui en tout cas a déjà essayé de chercher son autonomie par rapport au pouvoir des pharaons à l'époque, eh bien, il faut qu'il y ait quelqu'un dans la place, comme on dit. Et donc, comme ils placent leur capitale généralement à des endroits assez éloignés, hein, l'Égypte, c'est pas petit, c'est pas la Belgique.
Ouais.
Donc, on va avoir des capitales qui vont être généralement dans le delta, c'est-à-dire dans le nord de l'Égypte, et on va placer un personnage important à Thèbes. Alors, ça aurait pu être un personnage masculin, mais à l'époque, le personnage le plus important, ou en tout cas celui qui pouvait avoir le plus de pouvoir sur la région thébaine, c'était la divine adoratrice.
Elle est véritablement l'intermédiaire entre ces différents...
C'est ça.
Ouais,
donc,
pouvoirs.
En fait, le titre de la conférence justement que je vais donner en parle, c'est vraiment les yeux et les oreilles du roi, hein, si on peut l'appeler ainsi, enfin le pharaon qui se déclare en tant que tel à l'époque, en région thébaine. Et elles vont multiplier justement des constructions assez impressionnantes pour montrer justement tout ce pouvoir qu'elles ont à l'époque. Alors, c'est peut-être aussi, il faut le savoir, au niveau des chercheurs, une part d'interprétation, parce qu'avait-elle réellement le choix elle-même de ce qu'elle devait faire, ou est-ce qu'elles étaient simplement utilisées par le pouvoir?
Les interprétations divergent
assez, étant donné qu'on a des représentations dans lesquelles elles vont avoir une taille plus importante que des personnages masculins, alors qu'il faut savoir que dans l'art égyptien, justement, la hiérarchisation des tailles est très importante. Le pharaon sera toujours représenté plus grand. La femme est généralement subordonnée à son mari, à son frère, etc. Donc elle est représentée plus petite. Et là, c'est les divines adoratrices qui vont être les personnages les plus grands sur les représentations. Donc ça veut forcément dire quelque chose.
Et pour aller plus loin encore avec vous, Marine Libert, on peut se donner rendez-vous donc ce dimanche à 15h à l'espace Bernier, centre culturel de Waterloo, rue François Libert, au numéro 26 à Waterloo, donc avec cette conférence consacrée aux divines adoratrices et épouses du dieu Amon. Merci beaucoup, Marine Libert.
Merci.